Bienvenue sur Lumpen Station. Je suis encore en compagnie de Julien Berbera pour le troisième épisode de cette série qui est consacrée à des questions de muséologie, de description, de manière de faire des collections, de comment les montrer, et de questionnements autour de toutes ces thématiques. Nous sommes au studio lot du KBCB et j'ai encore beaucoup de plaisir à parler avec Julien. Salut Julien.
Salut Andrea.
Alors pour se lancer un peu sur le sujet de ce troisième épisode, on a vu les épisodes précédents et surtout le deuxième que le White Cube est devenu un peu en sorte de standard pour montrer des œuvres d'art. On a laissé un peu de côté les autres types de musées qu'on peut trouver dans le panorama d'une ville. Je voulais un peu finir peut-être avec cette question du musée d'art qui me semble est peut-être un peu particulier par rapport à d'autres types de musées, dans le sens que quelque part tous les autres musées me semblent en plus de choses en commun entre eux, que le musée d'art reste toujours un peu un musée un peu à part. Quelque part on pourrait même se poser la question si ça a été une bonne idée d'appeler musée d'art contemporain le musée d'art contemporain. Donc là, voilà, il n'y a pas vraiment de questions, c'est plutôt, je te laisse rebondir un peu sur ça pour voir toi par rapport à ton background, un peu ce type de questions, c'est aussi peut-être une épistémologie différente au sein de la muséologie pour penser le musée d'art par rapport à d'autres musées.
Oui, c'est une question rigolote, mais je pense que c'est vrai, mais est-ce que c'est pertinent d'appeler musée un musée d'art contemporain? Je crois que ça revient à la question qu'on avait abordée au tout début, c'était la question de la collection. Ça fait du sens d'appeler ça musée à partir du moment où il existe une collection. Et effectivement, quand on parle d'art contemporain, se pose du coup la deuxième question. Est-ce que on parle d'art contemporain comme d'une sorte d'école, ou est-ce que on parle d'art contemporain comme quelque chose de défini à partir des années 70 jusqu'aux années 2000? Est-ce que c'est ça l'art contemporain, ou est-ce qu'on parle de l'art contemporain au sens de l'art qui est fait actuellement? Et ça, c'est fait une vraie différence. Je pense que les musées d'art contemporain actuels sont plutôt se définissent plutôt en opposition avec aux musées d'art moderne ou musées d'art tout court en général. Et donc ça raconte quelque chose du type d'objet, ou disons de la datation des œuvres qui sont montrées, surtout ça, je crois. Après, peut-être par rapport à l'opposition avec d'autres musées, je crois qu'effectivement, il y a comme une petite séparation, ou je ne sais pas si cette séparation elle est pertinente, mais en tout cas, il pourrait y avoir une sorte de... Il y a une séparation qui est compréhensible dans le sens où le musée d'art, je crois, essaye ou souhaite se singulariser par rapport à d'autres types de musées qui ont peut-être des agendas différents, ou des programmations un peu différentes. Tu parlais tout à l'heure du musée d'histoire naturelle, par exemple. Les enjeux pédagogiques qui sont derrière la fonction du musée d'histoire naturelle, ou des enjeux de recherche également, hein, parce que en tant que public, on a aussi beaucoup tendance à analyser le musée selon la perspective qu'est la nôtre, mais en l'occurrence, les musées sont aussi et avant tout des lieux de recherche. Et ça, c'est, je crois, aussi important de le mentionner. Je pense que dans le cas typiquement d'un musée d'histoire naturelle, il y a un peu cette tension, cette double mission d'être à la fois un lieu de recherche en pointe sur les questions de sciences naturelles. Et là, on a vraiment un savoir universitaire de pointe qui est produit dans les collections, au sein des collections, dans le côté, on va dire, dans la face cachée du musée. Et puis, une dimension qui, pour le coup, est beaucoup plus didactique, qui vise en fait à transmettre les connaissances en sciences naturelles à des publics. Et je pense que c'est ça. Il y a plusieurs raisons hein, qui font la nature de ces disons que on pourrait imaginer on a l'impression peut-être que le musée d'histoire naturelle a une adresse plus générale ou s'adresse aussi bien aux de 7 à 77 ans. Il y a un peu cette idée là quand même derrière l'exposition de musée d'histoire naturelle, alors que traditionnellement on pourrait dire le musée d'art a un peu vocation à s'adresser à des publics un peu plus initiés, même si effectivement personne ne revendique ça et la plupart des gens ne le veulent pas, en tout cas ne disent pas qu'ils veulent ça, parce qu'effectivement il y a quand même, et ça c'est aussi peut-être quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé peut-être pendant ces épisodes, mais il y a une vraie injonction politique, et ça peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en parler tout à l'heure si on aborde la question du financement des institutions, mais il y a une vraie injonction politique à être ouvert à toutes et tous et à s'adresser au plus grand nombre pour les musées. On a complètement quitté l'idée d'un musée exclusif qui s'adresse qu'à une petite élite.
Ça me donne l'occasion de rebondir sur un musée qui est en construction, peut-être il est déjà fini, à Berlin. Je m'excuse parce que je me souviens toujours très mal les noms et j'essaie du coup de l'utiliser aussi comme exemple un peu archétypale, parce que je pense que c'est une question qui va se poser de plus en plus, et aussi en Suisse, mais je sais qu'à Berlin, il y avait un ancien sorte de squat avec beaucoup de studios d'artistes, il y avait aussi un bar, et je crois que le bâtiment il était aussi un peu historique, c'est pas trop loin, c'est dans plein centre, pas trop loin de la tour de la télé. Tout ça pour dire que j'ai eu l'occasion d'avoir une présentation de la rénovation de ce bâtiment. Donc on a sorti les artistes qui travaillaient en studio pour faire une sorte de musée d'art contemporain. Et la manière dont il était pensé, ça ressemblait plus à une sorte de supermarché ou de shopping mall, dans le sens peut-être aussi le centre Pompidou était pensé un peu de la sorte, c'est-à-dire que l'espace architectural peut vivre différentes temporalités ou différentes offres. Je pense aussi au musée à Vienne, je crois le Leopold Center, un truc comme ça, où il y a à la fois une section art moderne, une section contemporaine, voire une salle de cinéma, un ou deux, trois bars. Et en fait, l'idée, c'est un peu de devenir une sorte de micro-village où les gens ne vont pas forcément voir ou slash consommer une exposition, mais vont aller sur place, juste pour faire un rendez-vous, pour travailler sur leur ordinateur. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça sort encore un peu le musée comme lieu qu'on parlait avant du sacré, voire d'église, et là on rentre dans un nouveau registre. Et puis je me demande aussi si c'est pas aussi une stratégie pour contrecarrer ou se positionner comme une vraie proposition par rapport aux shopping malls, que là pour le coup sont devenus des vrais lieux de sociabilisation aux États-Unis, en Angleterre c'est aussi pour des questions de sécurité, ou on laisse sortir les adolescents au shopping mall parce que c'est comme les, leur laisser aller dans la rue, dans le sens, c'est protégé. Ils font du shopping et ils passent leur moment, quoi. Je vois ça depuis 10 ans en Italie, que c'est de plus en plus prominent, quoi, comme proposition périurbaine, quoi. Et aussi en France, du coup. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu observes ce type d'arrangement? Est-ce que ça ouvre une nouvelle, peut-être, phase d'études de la muséologie?
Je suis un peu... Pour moi, c'est difficile de m'exprimer vraiment sur le fait que j'ai pas étudié ça spécifiquement. Et donc, du coup, pour moi, c'est un peu dur de dire oui ou non. Donc, il y a un vrai changement par rapport à ça. Mais ce que je trouve qu'on peut... quelque chose, disons, ce que ça soulève comme question, que je trouve qui est assez intéressante par rapport aux institutions muséales ou institutions culturelles en général, hein, parce qu'on parle des musées, mais en fait, on peut parler d'institutions culturelles en général. Je crois qu'il y a une vraie question d'accessibilité à tout prix. La volonté que les lieux soient absolument ouverts et qu'ils s'adressent à toutes et tous, et que tout le monde, chaque citoyen, citoyenne ou chaque personne puisse y trouver son compte. Alors bon, là derrière, moi je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas faire ça, mais je trouve que plutôt que ça participe d'une idée, voire d'une idéologie politique qui est quand même que moi je serais prêt à défendre, disons, avec laquelle je suis assez en accord, qui est une idée que tous ces lieux de culture, dans la mesure où ils ont été financés par la collectivité, ils doivent être essayer de s'adresser au plus grand nombre. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a une vraie tension là derrière, en fait, avec les institutions culturelles. C'est est-ce que vraiment ça vaut la... est-ce que c'est nécessaire de faire que tout le monde ait envie d'aller au musée? Ça, c'est une vraie question, en fait. Et en fait, aussi, à quel prix ça se fait? Je pense que il n'y a pas de réponse tranchée par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être interrogé. Est-ce que, de la même manière que les stades de foot sont subventionnés par les pouvoirs publics, etc., est-ce que pour autant on doit mettre tout en œuvre pour que toutes les catégories de population soient tout le temps représentées au stade? Je pense que c'est la même question avec les musées, mais dans le cas des musées, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, une forte histoire élitaire. Donc, c'est vraiment souhaitable de rendre ça moins élitaire, je crois. Mais se pose du coup la question du à quel prix et qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense que c'est une visée qui est assez noble, mais ce qui est un peu... et là, du coup, je reviens peut-être dans la perspective muséologique. En fait, on observe quand même que dans le cas de certains musées, certaines institutions, ça se fait au détriment de la qualité. Probablement aussi parce qu'il y a, pour certaines personnes, ils associent à certaines directrices d'institutions, associent à tort le fait d'être populaire avec le fait d'être peu complexe ou d'être de prémâcher les informations, se disent que des informations complexes et argumentées peuvent pas être comprises par la masse. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu social là qui est quand même assez assez important, et je crois qu'il faut aussi combattre ça dans les musées. Je crois que c'est vraiment important qu'il faut se battre pour que la qualité des programmes elle reste haute et pas céder à la tentation de rendre les choses faciles à digérer et faciles à comprendre, disons c'est aussi un effort d'être au musée parce que c'est un effort de découverte et tout ça. Et je pense que c'est vraiment une approche condescendante que de vouloir tout simplifier pour être populaire. Et ça, je crois que c'est un truc auquel il faut faire un peu gaffe.
C'est un peu comme si on ouvrait des salles de gym, mais on serait, je sais pas, au lieu d'avoir un tapis roulant ou sur lequel on court, on serait assis, quoi. Mais je pensais aussi à la question de tes recherches par rapport au musée du futur. C'est justement ces questions-là sont abordées par les personnes qui se sont posées justement le modèle ou qu'ils ont travaillé avec ce concept de musée du futur. Voilà, si tu peux nous en dire quelque chose par rapport à ces projets ou ton corpus d'études, quoi.
Ouais, je crois que c'est intéressant d'en parler parce que, effectivement, bon, peut-être vraiment pour être précis avec cette notion de musée du futur, quand même, c'est pas moi qui prétends qu'il s'agit d'un musée du futur, mais c'est vraiment des discours qui sont portés par les directeurs et directrices d'institutions. Et il y a un côté, il y a une dimension marketing, hein, parce qu'on est tout le temps en train, en tant que responsable d'institution, on est tout le temps en train de justifier, que ce soit auprès des conseils de fondation ou auprès des pouvoirs publics, on est toujours en train de justifier que notre institution va être la meilleure et qu'on va... On va augmenter la fréquentation et qu'on sera en pointe avec qu'est-ce qui se fait de mieux, etc., etc. Donc ça, c'est une des premières choses. Puis en même temps, ben, musée du futur, ça veut dire aussi inventer, disons, dans cette institution patrimoniale qui parle surtout du passé, comment on peut parler du temps présent et être en phase avec des enjeux de société. Et je crois que ce qui est intéressant à la fois, c'est que les questions, par exemple, décoloniales, on en a pas mal parlé, elles sont traitées. Comme d'autres questions hein, d'accessibilité et tout ça, mais en tout cas, moi, dans mes recherches, et puis je trouve que ça, c'est un point qui est important à noter, c'est qu'il y a... y a un véritable blind spot avec la question des publics. Et je trouve que c'est pour ça aussi que avant je disais qu'il faut s'engager pour ça, c'est que je trouve que quand on recherche, quand on discute des cas d'études par rapport aux questions d'accessibilité, d'enjeux sociaux et tout ça, il y a soit un discours politique qui est en fait assez démagogique de dire oui, il faut que le musée s'adresse à tout le monde, etc., etc., soyez moins compliqués, organisez des trucs un peu simples, comme ça le public y vient, etc., faites venir les écoles et tout. Toutes des choses qui sont a priori positives, mais qui sont, je pense, pas non plus... qui je trouve respectent pas le public d'une certaine manière parce que part du présupposé que les gens ne sont pas capables de comprendre des choses complexes ou alors une partie des institutions là que j'ai cité hein, notamment le travail de Clémentine Delis à Francfort Weltkulturenmuseum, mais on n'a pas beaucoup évoqué un exemple suisse que je trouve assez intéressant, ce qui est le musée d'art et d'histoire de Genève, où là aussi le directeur Marc-Olivier Valère vient du monde de l'art contemporain, et puis lui a également aussi en fait depuis maintenant 5 ans, 6 ans même, a commencé vraiment de développer une programmation qui passe par des invitations faites à des artistes pour essayer d'éclairer différemment la collection. Il y a une vraie volonté de remise en question aussi de la collection. C'est un motif qui est important de sa programmation en tant que directeur. La collection, interroger la collection, c'est quoi un musée d'art et d'histoire dans une ville comme Genève? Est-ce que c'est légitime d'avoir des grandes ambitions ou pas? Est-ce qu'un musée de cette envergure-là collectionne plutôt des objets régionaux et tout ça, donc c'est des questions qui sont importantes. Et puis, qu'est-ce qui fait collection? Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc je pense que c'est des choses qui sont assez importantes, mais je crois, et ça c'est quand même une critique que je peux adresser aux exemples que je viens de citer, c'est que la question de l'accessibilité, de la diffusion au public, la solution n'a pas encore été vraiment trouvée. Je crois qu'il y a la volonté de fonctionner avec, par exemple, un prix d'entrée qui est libre pour que les gens qui ont une condition économique plus modeste puissent se sentir légitimes d'entrer. Mais je trouve qu'il existe quand même un décalage entre les déclarations d'intention, les discours et une volonté que je crois sincère, notamment de la part du directeur du musée d'art et d'histoire à Genève, lui, quand il parle de ça, il dit qu'il aimerait que le musée puisse être un lieu où on entre par erreur, qu'il soit une sorte de prolongement de la rue, qu'en fait, il n'y ait pas... qu'on arrive en fait à casser quelque part cette austérité du musée. Et je crois que c'est mieux qu'un certain temps. Je pense qu'il a amené des choses dans cette direction-là, mais c'est pas non plus encore complètement résolu cette question. Et je crois qu'on arrive sur question peut-être qui toi André te ces questions qui t'occupent ou qui t'intéressent toujours un peu, je sais, les théories de Pierre Bourdieu hein, sur le capital culturel, sur la même manière dont on peut accéder ou pas. En fait, au-delà de ces capacités financières, c'est quoi notre background, c'est quoi les savoirs qu'on a acquis, qui sont liés aussi à notre classe sociale,
oui,
qui
nous permet le goût aussi, la question du goût.
La question du goût, effectivement, ouais, c'est qu'est-ce qu'on aime et tout. Donc je crois que c'est des choses qui sont importantes, qui jouent très fort dans cette question d'accessibilité des musées. Et je crois peut-être que je suis trop critique, et ça c'est vraiment un avis ultra personnel, parce que d'autres personnes qui pourraient être invitées ici diraient qu'ils ne sont pas du tout en accord avec moi, mais je crois que je n'ai pas personnellement un exemple à citer où je trouve qu'on arrive à la fois donner envie aux gens d'aller au musée et avoir une vraie. D'avoir des musées qui sont vraiment des véritables lieux populaires, tout en ayant une programmation exigeante et riche. J'ai l'impression que ça se fait un peu dans le domaine des arts vivants ou de la musique, que ça marche un peu mieux. Et je crois que, par exemple, le Palais de Tokyo à Paris va par certains côtés dans cette direction-là, même si, en fait, on pourrait évidemment discuter de toute une série de choses qui sont problématiques par rapport à cette institution aussi, mais je crois qu'il y a en fait, je crois que ça c'est aussi un champ qui est passionnant et sur lequel je peux pas non plus répondre parce que j'ai pas de solution toute faite, mais je crois que c'est un vrai champ d'expérimentation actuellement, comment rendre le musée populaire tout en ne sacrifiant pas la qualité, en le transformant pas comme tu me disais avant hors antenne, en une sorte de parc d'attractions, quoi.
Oui, je crois. Bah, peut-être pour me retourner ces questions régulièrement du côté de la pratique, mais aussi de l'organisateur. Je sais pas, c'est un peu des fois la question de je t'en parlais aussi hors micro par rapport aux questions du néo-Bauhaus et du mouvement. Le MIBI, donc Mouvement International du Bauhaus Imaginiste, et que c'est un débat interminable que je vais essayer de résumer, mais c'est toujours un peu est-ce que la bonne idée doit venir du haut et donc après on va l'offrir à ses concitoyens, donc quelque part c'est un peu une pensée de designer, j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit la bonne intention. Elle a sa limite, justement. Elle arrive comme ça. Elle est pas imposée, mais elle surgit. Et peut-être que qui est designer comprend les enjeux ou la trouve plus ou moins bien. Et puis la question imaginiste, si je peux la résumer ainsi, qui est la question qu'on peut aussi l'affilié au DIY, donc quelque part le bottom-up. Et il me semble que l'opportunité en fait, qui s'offre plutôt de l'accessibilité, c'est celle du lieu de vie. C'est-à-dire, tu parlais avant des musées qui ne sont pas dans l'art, qui sont aussi des lieux de recherche, c'est-à-dire qui sont aussi une poursuite pour qui a fait des études, d'être au cœur même de la pratique. Donc, à la fois, il y a la collection, mais à la fois, des fois, ils partent en mission sur le terrain et puis ils reviennent. Tu vois et ça, ça n'existe pas vraiment dans l'art. Il y a les résidences, mais les résidences, elles ne sont pas au sein du musée. Et c'est un peu plus complexe. Peut-être que nous, ici, on essaye de suggérer ça à Paul et à d'autres directeurs, parce que l'invitation qu'on a prise en créant le Lumpen Station ici au studio, c'est vraiment de faire un laboratoire ouvert, c'est-à-dire accessible, parce qu'il y a une vitre, là on peut pas la voir, mais il y a une vitre derrière moi qui rend l'espace pas transparent dans le sens, oui, accessible visuellement, mais aussi il y a eu des artistes en résidence qui viennent ici, qui travaillent 2 ou 3 heures par jour, etc. Et il me semble que c'est ça aussi une manière de montrer au public et de peut-être en avoir plus, c'est que il peut y avoir un rôle actif aussi. Il peut y avoir, il y a un peu au côté le bar du commerce, mais en fait, le bar du commerce, les gens, ils aiment bien y aller parce qu'il y a aussi là où on débat de politique, on débat de questions personnelles. Et d'ailleurs, dans la société, on a peur de perdre ça parce qu'il y a les réseaux sociaux, donc il y a une distance plus grande. Donc ce côté face-to-face est en train de se perdre. Et je me demande justement, c'est dans ce questionnement que tu étais en train de dire, pour n'importe quel musée, en fait, il manque toujours pour moi aussi, point de vue vraiment pragmatique de carrière d'artiste. C'est intéressant d'avoir un lieu de travail au sein d'une institution. Déjà, c'est moins solitaire. On est moins en côté moine dans notre studio et puis on descend avec une sorte de vérité comme ça. Ça nous permet aussi à nous d'être artistes, d'être dans le bottom, non, sur le terrain. Et peut-être c'est là où la quadrature du cercle, qui est celle de qualité haute, exigeante et en compréhension éventuelle du public, et peaufiner, parce que on se comprend mieux, parce qu'en fait on vit un peu ensemble, on partage déjà quelque chose, et puis si on comprend pas tout, mais on comprend certains aspects et on est considéré, et à la fois il y a un côté de partage, quoi. Il y a un rôle aussi actif pour le public où, et je finis sur ça, comme ça je laisse rebondir sur des choses peut-être qui te viennent à l'esprit, mais je fais souvent le parallèle avec la cuisine, dans le sens, pas tout le monde a envie d'être cuisiné, pas tout le monde est en banc cuisiné, mais c'est beaucoup plus sympa de partager le repas ensemble. Et il y a des gens qui ne sont pas des master chefs, mais ils savent par exemple très bien parler de ce qu'ils mangent. Et en fait, ça se passe parce qu'on partage la table ensemble. Et tu vois déjà avec les restaurants, ceux qui ont les tables petites. Et en fait, tu vas que te rencontrer avec les gens que tu sais déjà qui mangent un peu comme toi. Et les autres restaurants où tu es un peu en mode taverne, ok, tu perds un peu le côté atmosphère intimiste, mais tu vas manger avec quelqu'un à côté de toi. Et à un moment donné, tôt ou tard, il va y avoir, comme disait Valère, il y a un prolongement de la rue, non ? Mais ça se fait aussi à table. Il y a un prolongement de la rue où quelqu'un qui vient de la rue s'assoit à côté de toi avec les personnes que tu es. Et peut-être il y a une conversation qui va se faire. Quelque part, ça pourrait être aussi un concept pour mon musée du futur. Mais c'est aussi intéressant, justement, que toi, tu as pu étudier d'autres questionnements et d'autres cas qui ont essayé de se poser cette question.
Ouais, je peux pas forcément revenir sur toutes les choses que tu as dit, mais je pense quand même, par rapport à cette question du musée comme un espace de recherche. Pour préciser quand même, le musée, c'est toujours un espace de recherche, je crois. Ça, c'est particulièrement flagrant dans le cas d'un musée d'histoire naturelle, parce qu'effectivement, il y a le travail sur les spécimens et éventuellement aussi le fait de travailler sur le terrain, de partir, etc. Mais dans les musées d'art en général, il y a un travail sur les collections qui est vraiment très important. Il y a des gens qui font de l'exposition l'exception de leur pratique de conservateur, conservatrice. C'est vraiment quand tu dans les grandes structures, dans la plupart des structures un peu d'envergure, c'est quand même une grande partie du travail, est quand même fait sur les collections. Après, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que dans le cas des Kunsthalle ou des musées d'art contemporain qui n'ont pas de collection, par exemple, de fait, les équipes sont souvent plus petites parce qu'évidemment, il n'y a pas de collection sur lesquelles travailler, il n'y a pas de collection qu'il faut entretenir, conserver, etc. Mais, et je crois que c'est aussi tout pour moi le cœur de ces discussions qu'on développe dans ces épisodes, c'est cette question de l'exposition, comment l'exposition en tant qu'objet peut être un espace de recherche empirique. Et je crois que tous les curateurs et curatrices qui nous écoutent, bon, peut-être pas tous, parce que j'espère en tout cas pas tous, mais une grande partie seront d'accord avec le fait que produire une exposition, ça implique aussi c'est un travail de recherche aussi. C'est un travail de recherche à la fois objectivement au niveau préparatoire, donc qu'est-ce que pour faire l'exposition. Mais quand je parle de travail de recherche, pour moi, l'exposition, c'est aussi un lieu qui produit de la recherche en tant que forme, en tant que... C'est pour ça que je trouve intéressant, alors il y a plein de contre-exemples, mais je trouve intéressant qu'on puisse appréhender l'exposition, et je crois que c'est aussi pour ça que c'est ça que moi j'aime bien parler, ou ce qui m'intéresse dans les exemples que je citais, à la fois les exemples au musée d'art et d'histoire de Genève ou au musée... l'Historical Society à Baltimore avec le travail de Fred Wilson, ou la même chose au travail qui a été développé par Clémentine Delis, mais au Weltkulturenmuseum, ou comme tu en as parlé de Harald Zeman à la Kunsthalle de Berne ou à la Documenta. La Documenta est un bon exemple aussi pour ça. C'est en fait, les expositions sont des processus d'investigation. En fait, on est dans une négociation, dans une discussion entre on installe des expos, on crée des displays qui permettent en fait de créer du narratif, qui crée une histoire. Et en fait, la manière de les agencer, la manière de réfléchir comment on les agence, de ça découle toute une série d'interrogations qui sont aussi des interrogations sur l'institution en elle-même. Et je crois que c'est ça aussi que je trouve intéressant, et que au-delà de la recherche historique en histoire de l'art universitaire ou en muséologie, ou voilà, comme on a l'habitude de la pratiquer, je suis vraiment pour essayer d'explorer vraiment loin l'idée de l'exposition comme une stratégie de recherche empirique. Et j'invente rien en disant ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est défendu par de nombreux commissaires d'exposition, mais je crois que c'est une stratégie intéressante qui est utilisée depuis longtemps dans l'art contemporain, et qui commence d'être utilisé dans des musées plus institutionnels et peut-être un peu qui étaient jusqu'alors moins perméables aux dynamiques de l'art contemporain, comme justement des musées d'ethnographie, quoique, hein, parce que le musée d'ethnographie a aussi une longue tradition, disons une tradition relativement récente, mais quand même assez dense d'autoréflexif, notamment dans la manière de présenter les objets. Mais voilà, donc dans la manière dont les musées d'histoire, de sciences naturelles, de société, etc., peuvent utiliser l'exposition comme des stratégies de recherche ou d'autoréflexion.
Dans l'épisode numéro 1, à un moment donné, tu as dit que le musée d'art n'est plus un vrai lieu de subversif. Et du coup, j'étais justement curieux. J'ai cru comprendre, du coup, la subversion est quelque chose qui t'intéresse, que tu vas chercher quand tu vas au musée. Et comment. Je pense là, on peut développer cette phrase. Comme tu as dit, il y a. Quelque part, le musée d'art a ouvert la voie pour d'autres musées de se repenser ou de repenser l'expérience de leur collection et la proposer au public. Et en même temps, là, tu dis que peut-être en ce moment, c'est plus le musée d'art justement qui est subversif.
Oui, mais disons ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est un peu provocateur, mais je pense qu'il y a eu et on en a parlé quand on parlait du White Cube, de l'émergence du White Cube. Je pense qu'il y a eu un moment, et je crois que par exemple, le XXe siècle a été particulièrement fécond pour le monde de l'art. Il y a des artistes, des collectifs qui ont vraiment amené des nouvelles formes et des curateurs, curatrices, directrices d'institutions qui ont quittant ces nouvelles formes, qui en ont aussi inventé des nouvelles dans la manière de montrer l'art et tout ça. Et je pense que les institutions muséales contemporaines, qui présentent de l'art contemporain notamment, qui présentent de l'art en général, sont en fait au sommet de toutes ces réflexions. Et de fait, en fait, elles ont, on va dire, stabilisé leur forme, j'ai l'impression. Quand tu visites, j'ai l'impression qu'il y a aucun autre musée que le musée d'art qui a une forme aussi uniforme partout dans le monde, en tout cas partout dans le monde occidental. C'est quand même assez fort. Et puis, en fait, on pourrait aussi discuter. Des nouveaux musées qui s'ouvrent en Chine ou au Moyen-Orient. En fait, il y a une voilà, on a raffiné ce modèle et il est complètement stabilisé maintenant. Et du coup, il est quand je dis c'est moins subversif, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a moins, il est moins instable. Et on s'attend. Et disons, les conditions de monstration sont presque un peu attendues d'une certaine manière, ce qui n'enlève pas la qualité des expositions et tout ça, mais c'est vrai. Et je crois que il y a des phénomènes maintenant de fond qui sont liés, ben, notamment dans le cas du musée d'ethnographie. Typiquement, ces musées sont, on va dire, au cœur de l'œil du cyclone, quoi. C'est vraiment, ces musées n'ont pas le choix de repenser leur forme. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix d'être subversifs, à mon avis. Ils n'ont pas le choix d'inventer des nouvelles formes et ils n'ont pas le choix de subvertir ce qui existait jusqu'alors. Alors que le musée d'art peut, entre guillemets, je trouve, d'une certaine manière, se reposer sur ses lauriers. De la même manière, les musées historiques, les musées d'histoire qui pendant longtemps se sont pas posés, je crois, beaucoup beaucoup de questions parce que l'histoire était très linéaire avec des époques normées qui s'enchaînent. Alors après, s'il y a des historiens dans la salle, je me fais un peu taper pour dire des choses aussi générales, mais en vrai. Je pense que les musées historiques sont aussi dans une manière peut-être un peu plus subtile que le musée d'ethnographie même des musées qui ont des collections très régionales, mais en fait, la manière d'utiliser les objets des collections, elle est maintenant, c'est vraiment un vrai débat. Est-ce que ça fait encore du sens? Et en fait, c'est intéressant de voir, parce que comme professionnel, on invente des nouvelles choses, mais c'est intéressant de discuter de ça, par exemple, avec des visiteurs, visiteuses, on va dire non initiés. Pour beaucoup de monde, c'est encore logique de présenter les choses par ordre chronologique, quoi. Alors que, là encore, c'est une proposition qui est faite depuis le musée d'art contemporain. Mais en fait, pourquoi ne pas faire des associations de formes ou des associations de couleurs, simplement? C'est, là encore, je reviens au travail de Marc-Olivier Valère au musée d'art et d'histoire à Genève. Il y a ces propositions qui sont faites dans certaines de ces expositions. Des choses, et je parle de Genève parce qu'on est en Suisse, mais on peut citer de nombreux autres musées qui font des choses un peu similaires, notamment vraiment la question de la continuité historique ou des associations formelles. C'est quelque chose, voilà, on n'a jamais tellement, dans le musée d'histoire, on n'a jamais trop remis ça en question. Et maintenant, on le fait. Donc, en fait, je crois que c'est ça que je veux dire aussi, c'est que l'espace pour subvertir, c'est pas que le musée d'art et d'histoire est moins subversif, mais je pense que l'espace pour proposer des mises en crise ou des bouleversements, il est plus grand dans d'autres musées qu'on conservait pendant longtemps des formes plus traditionnelles.
Oui, je pense qu'il y a l'occasion de s'ouvrir à la question que je vais prendre à travers Lévi-Strauss de ce qu'il a défini la pensée sauvage, donc c'est-à-dire la possibilité de faire un classement du vivant ou de ce qui nous entoure, qui, pour résumer, pour rafraîchir un peu la notion, mais si l'Occident avait trouvé et peut-être s'est préoccupé pendant longtemps de comment classifier le réel ou l'univers, et a souvent pensé que les sociétés qu'elle allait rencontrer aussi dans les entreprises coloniales n'étaient pas capables de connaître le monde, qu'elles étaient primitives, quoi. Cette notion est un peu née d'un malentendu, de ne pas avoir su comprendre qu'il y avait d'autres critères de catalogisation et de classement, et que quelque part, il y a ça aussi qui est au cœur même de la domination, qui est une domination stupide, j'ai envie de dire, parce que justement, elle croit d'être dominante alors qu'elle ne se préoccupe pas de savoir. C'est un changement de critères. Et ce que tu dis, je trouve c'est intéressant parce que quelque part, je me dis que il y a peut-être une recherche qui se fait au travers de, et peut-être c'est là aussi le côté qui manque à l'art, pour être moi aussi provocateur à mon tour, subversif, c'est que les catégories et les classements et les reconnaissances, les légitimisations me semblent, comme tu dis, peut-être on peut rester sur nos lauriers, mais mériterait aussi peut-être d'être revu pour redéfinir aussi des critères qualitatifs de l'art. Je pense à des choses. On avait évoqué au deuxième épisode le street art, mais c'est évidemment un changement de critères qualitatifs et pas seulement un transfuge de lieux. Et je pense que là aussi, il y a une opportunité pour toutes les personnes qui s'intéressent à ça. Et peut-être aussi un peu de l'imposer ou de le défendre. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de faire une classification, un classement ou créer un critère. Mais en même temps, une fois qu'il est, il est clair, peut-être qu'il peut rentrer aussi au musée. Je pense à des choses de l'ordre de l'art qu'on appelle des fois avec un petit mépris l'art social, c'est-à-dire travailler avec des communautés non éduquées dans une école d'art, qui, c'est vrai, peut-être à premier abord ne semble pas être des masters, je sais pas, peut-être les travaux, voilà, on voit qu'ils sont un peu, on va dire, simples, mais premièrement, c'est des gens qui ne font pas ça à temps plein. Et deuxièmement, peut-être le critère n'est pas celui du résultat. Il est ailleurs. Et que quelque part, je pense, ça aussi, ça fait partie de quelque chose qui peut être subversif. C'est de faire entrer au musée des catégories et des classements sur l'idée de la pensée sauvage, d'être des sauvages, quoi, vraiment dans le bon sens du terme.
Je pense ce que tu racontes, disons, moi je vais vraiment aussi dans ton sens. Je trouve un exemple par rapport à ça, ou disons quelque chose sur lequel j'aimerais bien, disons, je trouve qu'il vaudrait la peine peut-être d'être poussé un peu plus loin dans la réflexion. C'est par exemple la notion d'art brut, qui en fait, oui, à la base, c'est une définition qui est faite par un artiste, par Jean Dubuffet, qui définit l'art brut comme l'art de personnes, on va dire, qui sont complètement en dehors du monde de l'art et qui du coup créent quand même. Et en fait, c'est un peu le critère de sélection. Et pour que ces personnes soient en dehors du monde de l'art, Dubuffet, il va surtout chercher des productions chez des personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou qui sont des prisonniers, prisonnières, en fait des gens qui sont de fait marginalisés. Et en soi, moi, je suis pas ici. Le but, c'est pas forcément de remettre en question cette définition originelle de Dubuffet, mais ce qui est quand même un peu plus problématique, je pense actuellement, c'est que pour certains et certaines, c'est de considérer que cette démarcation, elle a encore une pertinence dans la manière de structurer la création des gens, en fait. Et ça, je crois que, bon, après, voilà, évidemment, le monde de l'art, heureusement, revient sur ces questions, et en fait, on n'expose plus le travail de ces personnes uniquement dans une perspective, disons, comme des curiosités. Mais disons, il y a une nouvelle validation, une nouvelle validation institutionnelle qui est faite du travail de certaines de ces personnes. Et ça, je crois que c'est plutôt bénéfique. Mais je crois que c'est quand même un peu. Ça reste en fait pour moi des questions assez importantes que devrait se poser le musée d'art, disons les musées d'art actuels, sur le statut qu'on donne à ça, et de manière plus générale, je vais pas forcément me faire des amis du côté de Lausanne en disant ça, mais est-ce que le musée de l'art brut doit encore s'appeler comme ça, et est-ce qu'il a encore une légitimité à collectionner, parce qu'il y a plusieurs vagues de collections. Est-ce qu'à partir du moment où on a, parce qu'on a aussi parlé pas mal des artistes collectionneurs, et à partir du moment où c'était le musée de la collection d'art de Jean Dubuffet, ok, c'est une collection d'artistes. C'est une collection d'artistes définie par un artiste. Mais est-ce que c'est pas nécessaire maintenant, en fait, de. Je suis un peu méchant parce que je sais qu'il y a des volontés quand même pour reprendre ça pour remettre ça en question. Mais est-ce que, en fait, ça veut pas dire que maintenant on pourrait pas juste appeler ça la collection Dubuffet et puis réfléchir à ce que c'est. À complètement terminer cette notion d'art brut et revendiquer le fait qu'elle a plus de pertinence. En tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est que c'est plus pertinent d'utiliser ce terme pour qualifier de l'art en 2024.
On arrive gentiment vers la fin de cette série. Je vais peut-être finir sur une thématique à laquelle je réfléchis depuis un petit moment, parce qu'à la fois ça me fascine comme mouvement, et à la fois ça me fait un peu peur, donc je n'ai pas encore vraiment une opinion Claire là-dessus, ça me fait aussi un peu marrer. Du coup, je profite de parler avec un muséologue pour poser cette question-là. En voyageant, je constate et je collectionne aussi des visites à des musées qui sont assez, j'ai envie de dire mineurs, mais dans le sens qu'il y a une... Il y a de plus en plus dans des villes touristiques des musées, genre en Italie maintenant il y a en train de le musée de la torture, et il y en a même deux ou trois dans la même ville, où justement je pense que aussi la question de collection pourrait se poser, parce que je crois que c'est des reconstructions, mais en même temps basées sur des vrais trucs. Donc il y a aussi la question du faux qu'on avait évoqué dans l'épisode 2 avec les grottes de Lascaux, mais encore quelque part le musée de la torture, je vais le visiter à Copenhague. J'avais visité le musée des Guinness des records, donc il y avait des reconstructions en cire de l'homme le plus gros du monde, de la femme la plus petite du monde, tout des trucs comme ça.
À tous les musées de l'érotisme aussi, un peu partout.
Il y a les musées de l'érotisme aussi à Amsterdam. Et quelque part, comme j'ai dit déjà précédemment, je suis un peu un collectionneur convulsif, donc évidemment que ça me fait plaisir de rentrer dans une salle où il y a une collection, quoi. Même si elle est fake, je veux dire, ça, juste de rentrer. J'aime bien aussi maintenant, il y a de moins en moins, mais à un moment donné, il y avait aussi un peu des sortes de musées historiques avec des reconstructions en cire de la fondation de la ville. J'ai vu ça aussi encore plus ou moins récemment à Cracovie. Ils ont un musée entre musée archéologique et reconstruction. Il y a des scènes reconstruites aussi avec des poupées en cire. Mais pour arriver à quelque part là où je me dis que ça part un peu peut-être trop loin, par exemple à Zagreb, il y a le musée des Broken Relationships, qui est le musée le plus visité de la ville de Zagreb, qui est le plus cher d'ailleurs, et qui est... Qui est un phénomène assez récent. Il y en a plusieurs dans le monde. C'est devenu une franchise où on peut emmener un objet du quotidien XY avec son histoire. Je ne sais pas, cette chaussure a été laissée par mon ex après trois ans de relation. Et c'est la seule chose qui est restée parce que je n'ai jamais pu le recontacter, par exemple. Donc, du coup, exposer la chaussure, vraiment, imaginez n'importe quelle chaussure, c'est cette chaussure-là, avec cette histoire... écrite un peu en mode Time World basique. Et avec ça, donc c'est le musée le plus visité de Zagreb, et il coûte 15 euros l'entrée, quand le musée d'art naïf, parce que là-bas, il y a plutôt, au lieu d'art brut, on parle plutôt de art naïf, donc c'est self-taught, les autodidactes. Mais je n'ouvre pas, mais on pourra éventuellement refaire une émission sur ces questions art brut, etc., qui est par exemple seulement à 3 euros. Et avec ça, Justin, je te laisse rebondir pour ça un peu ce que tu en penses, ou si c'est discuté au sein des muséologues de la discipline. Il y a aussi le musée du selfie, par exemple, que je suis allé visiter à Florence, donc qui est un aménagement de salle qui pourquoi pas, dans le sens c'est des petites scénographies dans lesquelles on peut se prendre en selfie, dans par exemple au sous-sol il y avait la reconstruction d'un squat, ce qui est assez marrant de se dire bon, on est arrivé à définir ce qui c'est le squat, et un peu de graffiti en mode squat rave, tu vois, post fête à Berlin. Et c'est vrai, si on fait une photo, on pourrait y croire. C'est presque en scénographie de film. Et en soi, ça me perturbe pas, comme je dis. C'est juste un peu la question de l'utilisation du mot musée là, qui me suscite un peu de questionnement, parce que quelque part, je les appellerais selfie room ou selfie experience. Et je trouve intéressant que c'est autorisé et qu'il en joue sur la carte du musée, justement, que ça devient des musées.
Ouais, c'est vrai, mais ça rejoint aussi un peu ce qu'on a discuté déjà Au tout début, par rapport à la définition du musée, hein, effectivement, il y a un organisme officiel, l'ICOM, le Conseil international des musées, dont sont membres la plupart des gros musées institutionnels qu'on connaît, qui est en fait lié à l'ONU, hein, par l'UNESCO, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une entreprise internationale, etc. Donc quelque chose de très officiel. Et puis le mot musée qui finalement n'est pas vraiment protégé. Et en soi, je crois que, je sais pas, moi j'ai l'impression que ce dont tu parles, ces musées, sans préjuger de leur qualité, hein, c'est plutôt une manière de dire, quand tu as une ville touristique, c'est aussi un peu cette stratégie, voilà, le musée de la torture, ou le musée du selfie, c'est quand même l'occasion, sur un guide touristique, un peu se démarquer, et probablement que, et ça c'est aussi peut-être le paradoxe, c'est que, autant il y a des gens, qui ont de la peine ou qui trouvent pas leur compte, on va dire, à aller au musée, qui sont pas d'intérêt, autant ils vont peut-être être intéressés à aller au musée du selfie, au musée de la torture. Et je crois que c'est plutôt bien. Ça veut aussi dire quand même ce que c'est assez révélateur, je trouve, quand même de qu'est-ce que finalement les gens savent ce que c'est un musée, quoi, sans qu'on ait besoin de complètement le définir.
Bah, moi, je trouve ces endroits, bah, justement, je les collectionne, je visite. D'ailleurs, quand il y a des t-shirts, je les achète. Mais je me dis, il y a quand même après, en malentendu, aussi se créer dans le sens, si ça, c'est le musée, et après, tu vas dans un musée où il y a une installation ou une vidéo pas très sexy. Tu vois, comme, pour reprendre un terme de la Silicon Valley, le user experience, tu vois. Il y a quand même un truc qui... Comment tu fais après, tu vois, juste pour dire, ben, en fait, nous, on n'a que des tableaux. C'est des tableaux selon... Et à la fois, des fois, je me dis, bon, mais en fait, ce serait cool, disons, moi, une exposition fantasmée. J'espère que Hans Ulrich Obrist m'écoute parce que lui, il aime bien aider les artistes à réaliser leurs rêves. Hans, si tu m'écoutes, je rêverais de faire une sorte de musée de cire avec Marcel Duchamp, Picasso, reconstruire des petites scènes, je sais pas, une exposition avec une réunion des surréalistes, jusqu'à, je sais pas, Mike Leigh qui boit un verre à une table. Et tout en mode Madame Tussaud, quoi, tu vois. Bon, ça coûterait très, très cher et il faudrait plusieurs étages du style Guggenheim de New York. Ce serait un bel endroit où le faire. Donc, Anne, c'est jamais... Voilà. Mais le musée du selfie, c'est pas un musée, il n'y a pas de collection.
Non, effectivement, mais... Oui, mais bah, voilà, après, c'est vrai, mais je crois que c'est aussi. Je crois qu'on peut juste pas confisquer, on peut juste pas confisquer la dénomination musée, ma foi, les gens. Parce que par exemple, je sais pas si en Suisse, il y a beaucoup de musées aussi rigolos, ou disons aussi détonnants, je sais pas le terme, comment les qualifier, mais en tout cas, il y a beaucoup, par exemple, de musées privés. De musées d'entreprise, de musées privés, parce que effectivement, en fait, des gens qui, pour des raisons, pour une raison ou une autre, ils ont fait une collection. Après, ils ont envie de la montrer et probablement que le nom qui s'impose le plus rapidement possible, c'est le mot musée. Mais je trouve aussi c'est un peu intéressant parce que cette question du faux et du vrai, parce que effectivement on pourrait dire oui bon la différence c'est le faux, c'est le vrai, c'est les imitations. Alors effectivement, par exemple dans les musées de la torture, souvent, en fait, les trucs qui sont présentés, c'est plutôt une sorte de fantasme, de torture, parce que souvent, il y a des dispositifs qui sont au mieux exagérés, au pire inventés quand même. C'est pas, on est loin d'une vraie exposition historique, historiquement argumentée sur l'histoire de la torture, etc. Et déjà, la torture, où la torture, à quel moment
Oui, et puis il n'y a aucune mention de qui a été torturé,
dans quelles conditions.
C'est très Disneyland, quoi.
Oui, c'est ça. Ben, voilà, je pense qu'on est là. C'est un peu le parc d'attractions. Et je crois que le musée, en fait, peut-être c'est ça aussi, c'est qu'il faut accepter, c'est que le musée à contemporain subit une tension ou déjà subi une injonction à la Disneylandisation et de fait, par certains côtés va là-dedans. Après, je pense que ce qui est important, disons, moi je suis quand même assez attaché au fait que on essaye d'avoir de proposer aux spectateurs une certaine rigueur historique et scientifique. C'est aussi un peu ça qui fait la grande différence. C'est à Disneyland, tu es pas sans doute que ça fait longtemps que j'ai pas été à Disneyland, hein. Mais les bateaux pirates, par exemple, sont pas forcément des reconstitutions fidèles de la piraterie.
Oui, c'est pas des voiliers qu'on peut trouver dans le musée de la navigation à Amsterdam, par exemple. Déjà, ouais. Celui-là, je sais pas s'il est, mais je crois qu'il est plutôt fidèle parce qu'il y en a un qu'on peut visiter à la fin du musée de la navigation.
Je peux m'imaginer. Et après, je pense que voilà, ça on ouvre tout à coup un chapitre assez important. C'est la question du vrai, la question du faux, des objets, hein, qu'on a un peu évoqué aussi avec Lascaux. Mais il y a quand même un truc que peut-être qu'il faut pas oublier, qui est quand même assez intéressant et qui, je pense, peut-être peut donner matière à réflexion, c'est que certes, il y a dans le musée, alors le musée de la torture, des choses qui sont fabriquées de toutes pièces. Mais il faut pas minimiser aussi le fait que dans les musées qu'on visite, qui sont tout à fait sérieux, que ce soit même le Louvre ou le British Museum, il y a certainement un certain nombre de faux dans les tableaux, beaucoup de choses qui sont indûment attribué à tel ou tel peintre, parce que c'est toujours plus agréable de se dire que c'est un Leonardo da Vinci plutôt que c'est un suiveur de Leonardo da Vinci, notamment. Mais en plus, donc là, probablement, il y a aussi ces imprécisions-là qui existent aussi dans les musées. Et puis, de manière un peu plus générale, notre volonté de s'assurer que les pièces de musée, elles soient toujours dans des conditions le mieux possible, où on essaye de faire des restaurations. Alors, les dogmes en matière de restauration ont pas mal évolué, et puis on essaye d'être le moins invasif possible actuellement, quitte à revenir à des états un peu plus détériorés pour certains objets. Mais il y a quand même énormément, notamment des peintures. Les peintures médiévales qui sont accrochées au Louvre, il y en a pas une où le qui n'a pas été touchée depuis qu'elle a été peinte. Pour continuer d'être montrée au Louvre, elle est forcément passée entre les mains de restaurateurs restauratrices, et en fait elle a été retravaillée. Alors elle n'a pas été repeinte, mais effectivement, en fait, c'est aussi cette question de l'authenticité. Est-ce qu'elle est toujours authentique parce qu'elle a été nettoyée, restaurée, on a remis un peu de couleur là parce que c'était parti, ça s'était abîmé, etc., etc. En vrai, on serait assez déçus, hein. Il y a pas beaucoup d'œuvres qui n'ont pas subi des restaurations. Plus ou moins bonnes, mais il y en a peu qui sont pas restaurées.
Du coup, si on veut ouvrir un musée, on peut ouvrir un musée. Il n'y aura pas la section de muséologie qui va appeler l'FBI. On doit fermer.
FBI soit, des musées, quoi.
Ouais, en soi, c'est un copyleft, l'idée de musée.
Je crois que les,
même sans, sans
je crois que le terme musée, c'est un copyleft.
Même sans une vraie collection. Avec une vraie fausse collection, quoi. C'est possible.
Je crois que tu peux faire qu'est-ce que tu veux.
Ok, bah ça c'est bien à savoir. Je pense
que mais je crois que c'est aussi ça qui rend la muséologie assez passionnante. C'est qu'on peut, s'inscrire dans une étude, et souvent c'est ce qu'on fait, on s'inscrit dans une étude des musées historiques et tout ça. Mais quand tu commences de gratter, l'histoire, a posteriori, on essaie toujours de raconter des histoires incroyables sur les expositions et sur les musées historiques. Par exemple, il y a toute une tradition dans la discipline de la muséologie, toute une tradition de dire ouais, d'abord il y avait ça et ensuite ça. Un bon exemple, c'est après la Révolution française, il y a un gars, Alexandre Lenoir, qui a créé le musée des monuments français, qui est en fait une sorte de. En fait, à la Révolution, on a commencé de détruire les couvents, les églises et les palais, etc. Et évidemment, il y a plein de statues, plein de tombes et tout ça qui étaient là. Et dans la folie révolutionnaire, on a voulu un peu tout saccager, à tort ou à raison. Mais il y a eu des gens, dès le début, qui ont dit non, il faut garder ça, c'est l'histoire de France, etc. Et en fait, on a commencé de stocker ça. Il y a ce gars, Alexandre Lenoir, qui a créé une scénographie assez fantasque, parce que quand même, historiquement, ce n'était pas très bien argumenté, sur une histoire glorieuse de la France, qui est en fait un nouveau discours politique qui était construit pour résumer les choses. C'était quand même l'idée que pendant longtemps, ces statues ont raconté l'histoire des rois de France. Après la Révolution, le but, c'est plus de raconter l'histoire des rois de France, mais l'histoire de raconter l'histoire du peuple de France. Et en fait, ça répond à des injonctions et à un agenda politique. Le musée des monuments français est loin d'être un modèle d'exactitude historique, mais c'est un musée qui, quand même, du point de vue de la muséologie, est important, a fait date, et puis il est encore cité en exemple, notamment le Louvre a fait une super publication il n'y a encore pas très très longtemps, avec beaucoup de gens qui ont écrit des articles dithyrambiques et passionnants sur ce musée qui finalement est peut-être pas si loin de certains musées un peu freestyle qu'on pourrait maintenant voir.
Les personnes qui nous écoutent l'auront peut-être compris. Voilà, les musées, la muséologie, le fait de faire des collections est une sorte de rabbit hole, comme on dit en bon français, c'est-à-dire un trou sans fond. On pourrait continuer à en parler. Peut-être qu'on aura l'occasion de réinviter Julien Berbera pour une deuxième série, voire. Si à un moment donné, les musées, comme on a dit, de la torture comme ça, peut-être il y aura un collègue qui commencera à répertorier tous ces musées.
Ça serait joli. Hein.
Ça serait vraiment pas mal. En tout cas, je saurais plus où aller et quoi aller voir quand je voyage. Comme j'ai dit, je les apprécie pas mal. Même si voilà, certaines fois ça me fait un peu peur, et surtout qu'il coûte plus cher. Le musée du selfie à Florence coûtait plus cher qu'aller. Non, coûtait presque aussi. Coûtait 22 euros, et les Uffizi, si on prend le ticket en avance, c'est 25 ou 30. Donc, et d'ailleurs, j'admets aussi que je suis peut-être un peu jaloux parce que quand on est dans la pratique, il y a toujours des questions de financement et comment justement. Emmener des gens à venir pour voir des expositions. Voilà, peut-être ce serait une manière de financer après d'autres pratiques. Julien, est-ce que tu veux finir avec quelque chose peut-être absolument oublié et...
Non, rien de spécial. C'est vrai, on pourrait discuter d'autres domaines. Il y a certaines choses qui ont été un peu... sans doute un peu survolé ou peut-être fait un peu raccourci, mais je pense que c'était intéressant de parler de tout ça avec toi aussi, Andrea, et je te remercie pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, l'histoire des musées est quand même assez passionnante, et puis quand on va au musée, on, on, on y va pour voir des choses, mais des fois, c'est aussi intéressant d'aller au musée pour voir le musée, je crois. Ça, c'est un conseil, s'il y a d'autres gens que toi, tu arrives à inspirer pour qu'ils aillent au musée du selfie ou au musée de la torture, je pense.
Ou ethnologique dans chaque ville.
Voilà. Non, je pense que aller visiter les musées juste pour le musée, en prenant au deuxième plan le contenu du musée et juste se poser la question de pourquoi ce musée il est comme ça et qu'est-ce qu'il fait là.
Merci beaucoup, au revoir à tout le monde. On était au Studio Lo, au KBCB sur Lumpen Station. Ciao, ciao.